Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle série d'émissions intitulée Thème et Anathème, je reçois aujourd'hui André Gounel qui va nous parler des termes de Christ et Jésus.
Bonjour.
Alors bonjour André,
bonjour.
Je me suis servi de vos deux livres, Le Christ et Jésus et Parler du Christ. Et vous dites que le mot Christ est un titre, pas un nom, comme on dit le pasteur Monod ou le docteur Schweitzer. On devrait donc dire le Christ Jésus sans majuscule à Christ.
Voilà, ces précisions de vocabulaire sont, je crois, importantes et pour comprendre de quoi il s'agit. Et alors, effectivement, nous utilisons trop dans le langage courant, mais aussi dans le langage ecclésiastique, Jésus-Christ comme si c'était, Victor Hugo ou... un prénom et un nom, ou un nom double. Or, c'est pas du tout ça. Et du coup, nous ne comprenons pas beaucoup de passages du Nouveau Testament à cause de cela. Christ est un titre, effectivement. Un titre comme les professeurs, comme les docteurs, comme les ingénieurs.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Christ, c'est la transcription d'un mot, c'est la traduction d'un mot hébreu, Meshia, Messie, qui veut dire oint. Oint, c'est-à-dire celui qui a reçu une onction, celui à qui on a mis de l'huile sur la tête. Ce que l'on faisait dans l'Antiquité, et en particulier dans l'Antiquité, dans le monde juif, pour des gens qui étaient considérés comme des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y en a pas même à ma connaissance, comme des hommes de Dieu.
Mais il y a eu des... Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais dans le monde antique, par exemple, égyptien, il y a eu des femmes, non?
Oh, j'en sais rien.
Non.
Je n'ai pas fait la...
D'accord.
J'ai pas fait la
recherche. On fera une autre recherche ultérieurement.
Et c'était donc un signe de... Un peu comme les rois de France, quand on les intronisait, on leur versait de l'huile aussi sur la tête. Alors c'est ça que ça veut dire, homme, un homme de Dieu. Alors encore faut-il préciser, que ça veut dire homme de Dieu? Bien sûr, pour préciser le sens du mot, la première idée c'est d'avoir recours à l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est juste, c'est bon. Mais on constate que dans l'Ancien Testament, le Messie, loin, ça correspond à des figures très différentes.
Oui.
Il y a par exemple Moïse, qui est considéré comme loin, bien qu'il n'y ait pas de récit, si je me souviens.
Il n'y a pas eu d'onction.
Il est considéré comme...
Oui.
Il y a eu David. Alors David, il y a des prophètes.
Gédéon aussi.
Gédéon. Il y a des figures tout à fait différentes.
Oui.
Le chef politique, le législateur ou le sage avec Moïse, le serviteur souffrant d'Ésaïe.
Oui.
Cette figure un peu mystérieuse du Fils de l'homme dans le livre de Daniel, on voit des conceptions très différentes du Messie. Ça n'a pas un sens univoque.
Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire si ça a des sens différents? Qu'est-ce qu'on peut dire globalement en fait?
Alors ce qu'on peut essayer d'en sortir, mais c'est une... C'est une hypothèse que je propose, fondée quand même sur des textes. Tout à fait entre parenthèses, je pense aussi que ça vaut la peine d'aller voir ailleurs que dans la Bible.
Oui, ben on le verra effectivement. Oui.
Alors, moi ma réponse serait double. Le Christ, ça désigne d'abord un acteur, ou plus exactement un acte. Dieu intervient dans cet homme. Par exemple, Moïse
qui délivre.
Il délivre. Mm. C'est quelqu'un qui change la situation, qui change la situation des autres. Ça signale une intervention de Dieu et ce que j'appelle une intervention qui amène une transformation créatrice. une situation nouvelle, une situation ouverte.
Ça serait, en fait, alors le Christ serait une sorte de d'intermédiaire entre Dieu qui frappe ou qui agit et qui...
Oh, on peut dire que c'est un agent de Dieu, c'est un instrument
oui.
de Dieu, il est là, il a une mission à accomplir.
Mais il a quand même son libre arbitre.
Ah oui, comme tous les,
ouais.
les comme tous les agents.
Ouais.
Donc pour Moïse, c'est clair, pour d'autres, pour le roi aussi. Intervention de Dieu pour changer la situation, pour amener du nouveau, pour amener du neuf. C'est pour ça que je parle de créateur. Quelque chose de nouveau va apparaître. Pour Israël en Égypte, c'est clair, ça va devenir un peuple d'esclaves qui va devenir un peuple libre, disons.
Il y a toujours cette idée de choses qui se produisent et qui n'est pas statique, en fait. On retrouve un peu là les théologies du process.
Il
ne
s'agit pas de... Il s'agit vraiment d'une possibilité nouvelle
ouais.
qui est donnée aux gens. Il ne s'agit pas simplement de rétablir une situation. Quelquefois, on a représenté l'œuvre du Messie comme étant la réparation de ce que Adam a manqué. Dans un sens, c'est juste, mais dans l'autre, c'est du nouveau.
Oui, oui, oui.
C'est du nouveau.
Oui.
Voici, il y a du nouveau, dit l'apôtre Paul. Et alors ça, c'est le premier élément. Puis le second élément... le Christ, donc le premier élément, c'est le Christ comme acte de Dieu pour transformer la situation. Second élément, le Christ comme l'être humain, vraiment humain, c'est-à-dire l'être humain tel que Dieu le veut. L'être humain, nous sommes tous pas très humains, nous avons tous en nous une part de bestialité, de sauvagerie, d'horreur, à côté de choses angéliques et merveilleuses.
Oui, oui,
on
oui.
a tous cette sorte de dualité que la Bible décrit sous le thème de péché.
Oui.
Nous ne sommes pas vraiment humains, nous avons à devenir humains. Et le Christ est l'image de l'être humain, véritable, de l'être humain authentique, de l'être humain tel que Dieu le veut.
Alors,
autrement dit, l'opération que Dieu fait par le Christ de transformation créatrice a pour but de conduire à un être humain véritable.
Alors là, on voit, par exemple, vous citez le Bouddha, bon, comme être humain par la compassion,
voilà.
par le...
ce serait peut-être... Je crois qu'effectivement, on peut enrichir la notion de Christ par des apports
oui.
venus d'autres religions. Et de l'islam, je retiens l'idée du prophète.
Bien sûr.
Du prophète. D'ailleurs, Jésus est appelé prophète dans le Nouveau Testament.
Dans le Coran.
Dans le Coran. Il est aussi dans le judaïsme. Il est aussi dans le Nouveau Testament.
Oui.
Appelé deux, trois fois prophète. Il y a l'idée, alors là, dans le bouddhisme... de l'homme éclairé, de l'homme... il y a aussi l'idée dans le bouddhisme du passage, l'homme qui fait passer d'un état à un autre.
Mais vous parlez aussi, là vous parlez d'homme, mais dans votre livre, vous parlez aussi de la réforme. Vous dites que la réforme est un moment christique.
Voilà, oui.
Et là, ce n'est plus un homme, c'est plusieurs hommes.
Alors tout à fait, l'événement, je parle d'événement de personnage christique, je préfère quand même garder le mot Christ pour
oui.
Jésus, qui est pleinement Christ. Mais de personnages ou d'événements christiques, chaque fois il y a une transformation créatrice. Et à mon avis, François d'Assise a quelque chose de christique.
Ouais.
La réforme est un mouvement christique.
Et vous dites aussi la réforme catholique, enfin la contre-réforme que nous, mais qui est la réforme catholique, a bénéficié effectivement de...
La réforme du XVIe siècle entraîne une transformation du christianisme, protestantisme et catholicisme.
Oui, oui.
Le catholicisme de la fin du XVIe siècle,
oui.
c'est plus le catholicisme du Moyen-Âge.
Oui.
Alors là, il y a une transformation christique. Puis on peut parler, je ne sais pas, d'Albert Schweitzer, on peut parler peut-être de Gandhi aussi comme personnage...
Oui, vous le citez aussi.
Oui.
Oui, vous le citez. Alors nous allons faire une pause musicale. Vous nous avez choisi le début de l'Allegro du second concerto brandebourgeois de Bach. Alors on écoute ce morceau. Toujours sur Radio FM+, dans Thème et Anathème, avec Yolande au micro, qui reçoit André Gounel. Alors, pour revenir à ce Christ, cet acte de Dieu, qu'est-ce que c'est véritablement? Vous avez parlé donc de passage, mais ce passage, il amène quoi? Il est censé apporter quoi aux hommes?
D'apporter ce que le Nouveau Testament appelle le royaume. Mais Paul en parle aussi en termes d'être nouveau. C'est une transformation créatrice de la vie. C'est une vie qui change, c'est une vie qui est libérée, c'est une vie qui est ouverte, c'est une vie qui est délivrée d'un certain nombre de pesanteurs.
Et donc, par rapport à la croix, la résurrection, aux commémorations, alors ça... on n'est plus dans le même domaine, en fait.
N'est-ce pas, la prédication de Jésus, c'est la prédication du royaume qui vient.
Oui.
Et la prédication chrétienne, la prédication messianique, c'est le royaume s'approche. Il n'est pas là, mais il s'approche. Il vient, il y a des moments où il recule, il y a d'autres moments où il avance. Et les moments où il avance, c'est des moments christiques. Alors oui, l'intervention du Christ amène au royaume, on peut dire le salut si on veut, mais c'est un terme très, qu'emploie beaucoup, beaucoup le Nouveau Testament, et un terme qui a du sens, mais le salut, on le comprend trop comme une restauration d'un état antérieur, hein, et on a compris le salut un peu sur le mode de la guérison.
Oui.
Vous êtes en bonne santé, vous tombez malade, on vous guérit, voilà le salut.
Oui, c'est ce que vous dites, on revient à avant
on revient
Adam,
à...
ou au moins...
Et
à...
c'est le thème que l'on trouve, par exemple, chez beaucoup de poètes, du paradis perdu.
Oui.
Le paradis perdu est retrouvé. Alors, en fait, le royaume, c'est autre chose, c'est pas l'Éden, le royaume. C'est autre chose. Et les images du Nouveau Testament, Apocalypse 21, c'est pas du tout la description de Genèse. C'est tout à fait différent. Il y a un cheminement. Au fond, Dieu, quand il sauve, il crée. Il crée du nouveau. Et c'est pour ça que je parle plutôt de transformation créatrice que de salut pur, purement et
oui,
et
vous parlez aussi de dynamisme de Dieu, donc transformation
alors,
créatrice.
Alors, pour en venir à la croix, vous savez que dans les temples réformés, récemment d'ailleurs, pas dans les temples classiques, il y a une croix nue,
oui.
À la différence du crucifix,
oui, oui, oui.
Qu'il y a dans les églises luthériennes ou dans les églises catholiques. Et je crois que c'est significatif. Quand il y a le crucifix, on met l'accent sur le sacrifice,
oui.
Et sur l'effacement,
oui.
du péché. Quand on met la croix nue, on dit non, la croix a été vaincue. La croix n'a pas pu retenir le Christ. La mort est surmontée, la mort est dépassée.
Oui, mais de toute façon, dans le protestantisme, on aime bien aussi les symboles vides. On aime bien la croix vide, on aime bien le tombeau vide, on aime bien les temples vides. Il y a toujours cette idée que Dieu est là où on ne le voit pas, où on ne l'attend pas.
Oui, oui. Je l'ai dit à l'instant, mais dans les temples classiques, il n'y a pas de croix.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas de croix, c'est une image taillée.
Ouais.
Mais quand il y a une croix, la croix est vide chez les réformés. Hein.
Oui, oui.
La croix est vide pour indiquer que un avenir et pas un passé.
Et je voudrais qu'on revienne dans les religions actuelles non chrétiennes. Donc, vous dites qu'il y a des éléments de Christ plutôt que des Christs. Alors, comment vous pouvez un petit peu approfondir
voilà,
ça?
Voilà, la question est simple. Si le Christ est un titre, et ce titre est donné à Jésus. Il est donné à Jésus. Jésus ne le revendique jamais.
Oui.
Jésus ne s'appelle pas lui-même Christ, il a même des réticences,
ouais.
Que l'on peut comprendre étant donné le contexte et tout ce que ça portait. Ce qui signifie d'ailleurs que le christianisme a aussi redéfini, reformulé la notion de Christ par rapport à l'Ancien Testament. Quand j'étais étudiant, mon professeur d'Ancien Testament nous disait, l'Ancien Testament nous dit ce qu'est le Christ, le Nouveau Testament, qui est le Christ. C'est pas vrai, l'Ancien Testament nous donne différentes ébauches. Et ne nous dit pas ce qu'est le Christ, c'est le Nouveau Testament,
oui, oui.
Qui le dit. Alors la question, Jésus le Christ, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, qui dit à Jésus, tu es le Christ, qui est, à mon sens, le commencement du christianisme.
Ouais.
Quand quelqu'un dit à Jésus, tu es le Christ.
Oui, il le définit, lui donne un rôle, un nom,
voilà,
il le verbalise en tout cas.
Il le verbalise, c'est... C'est le point de départ. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le Christ se confond avec Jésus ou est-ce qu'il y a un écart entre le Christ et Jésus?
Voilà,
Si on essaie de dire les choses de manière un peu plus métaphysique, un peu plus théologique, j'espère pas trop compliqué, pour la Bible, Dieu est Logos. Logos, c'est le mot qu'on a traduit par parole,
oui.
Par verbe. Ça veut dire Dieu se manifeste.
Ouais.
Dieu se révèle par des paroles, mais aussi par des actes. Seconde affirmation, le Logos est Christ. C'est-à-dire que quand Dieu se manifeste, c'est en opérant des transformations créatrices et en appelant l'homme à sa vérité, à sa réalité la plus authentique. Et la troisième affirmation, c'est le Christ n'est pas seulement une idée en l'air, c'est pas seulement un idéal de Dieu ou un idéal de l'homme, mais le Christ a eu une réalité tangible dans un homme qui a vécu au début de notre ère, on ne sait pas d'ailleurs exactement à quelle date, enfin disons
oui,
entre les années
oui.
1 et 40 de notre ère. Et la chaîne est tout à fait importante. Alors la question c'est, si le Logos se manifeste par le Christ, est-ce que le Christ est totalement en Jésus,
oui.
Ou pas?
Et est-ce qu'il s'est manifesté avant, ailleurs,
après,
etc.
Alors là, c'est une querelle tout à fait classique en théologie, je ne rentrerai pas,
oui.
Parce que c'est la scolastique entre l'extra-calvinistique, etc.
Oui, d'accord, on va rester simple.
C'est passionnant, mais c'est,
oui.
Faut, c'est vraiment...
On ne va pas brouiller nos auditeurs.
Mais Dieu agit-il en dehors de Jésus? Et il me semble que la réponse est positive. Dieu agit partout, dans tous les hommes, chez tous les hommes, et pas seulement dans le petit groupe fermé des disciples de Jésus.
Pas seulement chez les chrétiens.
Pas seulement chez les chrétiens. Alors, on peut d'ailleurs voir dans le Nouveau Testament ce genre d'idée quand les mages des païens viennent à Bethléem, ces païens sont à la recherche d'un Christ qui n'est pas encore pour eux Jésus. Ils ont été actionnés par Dieu. Quand Paul parle du Dieu inconnu, il y a une présence de Dieu à Athènes, dans son discours à Athènes, dans Acte 17, il y a une présence de Dieu tout à fait indépendamment de Jésus. Et il y a donc cette idée de Dieu qui agit et qui peut-être agit. Il y a un prêtre catholique hindou qui a écrit un livre, La présence cachée du Christ dans l'hindouisme.
Oui.
Et cette idée qu'il y a là une sorte, des catholiques ont développé ça, une action de Dieu là où le Christ n'est pas connu ni nommé.
Oui, parce qu'on n'en parle pas dans l'hindouisme de Jésus.
On en parle quelquefois, mais de manière récente, évidemment,
oui.
Et de manière relativement indirecte.
Oui.
Dans l'hindouisme, il y a cette idée de l'homme qui est complètement transparent à l'ultime et qui correspond, que certains hindouistes ont rapproché de Jésus. On dit que c'était... Alors, je crois que la foi chrétienne... c'est pas de dire « sont chrétiens ceux qui disent Seigneur, Seigneur », mais « sont chrétiens ceux en qui sont croyants, ceux en qui Dieu agit ». Et alors on dira « est-ce que c'est pas éliminer Jésus ?» Je ne pense pas, parce que Jésus, à mes yeux, et pour des raisons que j'essaie de développer, mais peut-être ce n'est pas le moment, est le Christ par excellence. Alors là aussi, je vais faire de la scolastique. Les réformateurs au XVIe siècle disaient Jésus est totus Christus, il est entièrement Christ, mais il n'est pas totum Christi, il n'est pas la totalité de Christ.
On va revenir sur ces notions dans 5 minutes. On va refaire une seconde pause musicale pour que les auditeurs aient le temps de digérer un petit peu tout ça. On se retrouve après le morceau donc que j'ai choisi, qui est Soon de Yes.
We moved.
Nous nous retrouvons de nouveau sur Radio FM+, dans Thème et Anathème, avec Yolande qui reçoit André Gounel. Donc on va revenir sur Jésus qui est le parfait Christ. Vous êtes quand même un pasteur protestant, donc chrétien. Donc c'est aussi normal, entre guillemets, d'avoir suivi, de considérer que Jésus est quand même le Christ parfait.
Oui, moi quand je dis Jésus, le mot parfait je l'aime pas, mais enfin peu importe.
Oui.
Quand moi je dis Jésus est le Christ, ce qui est ma conviction, cela veut dire d'une part que c'est à travers Jésus, son enseignement et sa personne que Dieu m'atteint.
Ouais.
Que Dieu me parle, que Dieu entre en communication avec moi. Alors peut-être qu'il entre en communication avec d'autres par d'autres moyens, mais ça j'en sais rien. Ça je sais que pour moi, Jésus est le Christ,
il n'y en a pas d'autre. Oui, c'est toujours le problème de la vérité, c'est votre vérité.
C'est ma vérité la, oui. La plus profonde. Et dire que Jésus est le Christ, c'est aussi dire que pour moi, il offre le modèle, l'exemple, la mesure de toutes les autres manifestations religieuses qu'il peut y avoir. Et il offre en ce qu'il s'oublie lui-même, en ce qu'il s'abandonne lui-même, en ce qu'il ne divinise pas son humanité. Il refuse d'être une idole. Jésus ne veut pas qu'on l'adore.
Mais il y a le serviteur souffrant d'Ésaïe un peu là-dedans. C'est-à-dire le contraire de David, qui est aussi un Christ, mais qui est qui a du Christ en lui, qui a été loin de Dieu, mais qui est puissant, qui est au moins pendant un moment. Et alors que le serviteur souffrant d'Ésaïe, il y a cette notion de quelqu'un complètement abandonné que vous décrivez.
N'est-ce pas cette expérience du Christ ou de la rencontre avec le Christ? Se fait de différentes manières à différentes époques et se traduit par différents jeux d'images. Mmh. Et aussi bien le roi triomphant que le serviteur souffrant, ce sont des paraboles.
Oui.
Et il faut les prendre comme des paraboles qui viennent se corriger probablement mutuellement. Si avec le serviteur souffrant, on se mettrait à faire du dolorisme.
Oui.
Si avec le roi victorieux, on oublierait le malheureux, le souffrant et le pauvre. L'entrechoc des images permet d'avancer dans la compréhension du Christ et dans un sens, un des points qui fait l'humanité. Alors, j'aime pas parfaite, parce que parfaite, ça veut dire qu'il est achevé, qu'il est terminé.
Oui.
Tandis que, pour moi, le Christ est vivant. S'il est vivant, il n'est pas terminé.
Oui.
Dieu est vivant, et s'il est vivant, il n'est pas terminé. L'entrechoc des images empêche l'une d'elles de devenir idolâtre, empêche l'une d'elles de tout capter.
Et alors, quand j'ai parlé de l'idée de cette émission à plusieurs personnes, ou même quand j'ai parlé de votre livre « Le Christ et Jésus », il y a des gens qui ont été choqués qu'on puisse... Alors, c'était des gens qui n'étaient pas forcément très proches du protestantisme, ou qui étaient protestants, mais qui n'étaient pas très versés dans la théologie. Mais l'idée que l'on puisse, et d'ailleurs moi-même, quand j'ai lu il y a bien longtemps « Le Christ et Jésus », oui, ça remonte à une trentaine d'années, je crois, je ne dis pas que j'ai été choquée, mais j'ai été très surprise qu'on puisse séparer les deux choses. Et surtout avec mon éducation catholique, c'était un peu compliqué. Mais apparemment, ce n'est pas une découverte ni de vous, ni des théologiens du process, mais c'est bien plus ancien. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet?
En fait, on pourrait dire que toute la réflexion des grands conciles tourne autour de ça, hein. Mais on peut aussi voir dans la réforme, en particulier chez Calvin, l'idée que Dieu peut agir en dehors de Christ, en dehors de Jésus, et cette idée d'une présence et d'une action de Dieu. De la même manière, l'idée de Jésus comme homme modèle, comme homme accompli, apparaît fortement. Il y a déjà la parole de Pilate présentant Jésus à la foule, voici l'homme,
oui.
Que toute la tradition chrétienne a comprise, voilà ce qu'est l'homme.
Ah,
voilà
d'accord.
Ce qu'est l'homme, hein. Voilà ce qu'il doit être. Voilà un homme. Nous avons trouvé un homme. Il y a aussi chez Érasme cette idée que nous devenons tous devenir des Christs. Être des Christs les uns pour les autres. Ou de Luther disant que nous sommes appelés à être de petits Christ.
Oui, Zwingli aussi en parle.
Oui, alors Zwingli est très réticent vis-à-vis de l'adoration de l'homme Jésus. Il trouve que un des inconvénients du dogme, et là je lui donne totalement raison, c'est d'avoir conduit à diviniser l'homme.
Oui.
Marie, mère de Dieu.
Oui.
Non, Marie est mère de Jésus.
Oui, oui, bien sûr.
Ou bien cantique luthérien qui parle des langes de Dieu. Non, c'est des langes de Jésus. Et...
Des langes de Dieu ?
Oui, des langes de Dieu.
Oui, c'est un peu curieux. C'est,
bah...
c'est même un peu... Il y a un côté un peu bizarre.
Oui. Et l'idée, alors aussi très réformée, que c'est pas Dieu qui meurt sur la croix, c'est Jésus.
Mmh.
Il y a une christologie de la croix, je l'ai réformée.
Oui.
Il n'y a pas une théologie de la croix,
ah oui.
À la différence des luthériens. C'est donc une distinction qui opère, et trouver le visage du Christ chez l'autre, dans d'autres religions, c'est quelque chose que l'on voit dans le christianisme et qui me paraît authentique dans la mesure où il ne s'agit pas de subordonner, de coloniser ou d'assimiler les autres, où on les respecte quand même dans leurs différences.
Mmh.
Mais où on leur dit, dans ce que tu me dis, ou dans ce que tu fais, ou dans ce que tu crois, moi j'entends une parole de Dieu. Voilà.
Et il y a eu aussi, auparavant, même avant... bon, alors, dans le catéchisme de Heidelberg, vous dites que qu'on retrouve cette idée, mais il y a aussi l'époque patristique, donc des pères de l'Église, donc très tôt dans le christianisme, où il y a une forme de thèse qui dirait que Dieu a répandu des semences de
vérité. Oui, c'est la thèse de Justin Martyr qui a été repris par bien d'autres, mais je crois que Justin Martyr est le premier, ce qu'on appelle le logos spermaticos, c'est-à-dire cette idée que le logos, Dieu s'exprimant par excellence dans l'histoire d'Israël, mais que aussi il y a des semences Justin Martyr dans le monde latin chez un certain nombre de sages, un certain nombre de stoïciens et ailleurs.
Oui, ça existe, donc le logos il existe depuis toujours et il intervient, bon on le voit évidemment dans la création.
Le logos c'est Dieu qui s'exprime, oui. c'est vraiment... il faut traduire ce terme en Dieu s'exprimant.
D'accord, et on retrouve le dynamisme créateur.
Et on retrouve le créateur
dynamisme
de Dieu. Oui.
De Dieu. Ouais. Eh bien, je vous remercie de tous ces éclaircissements.
Voilà, c'est de la haute théologie. Hein.
Oui, c'est de la haute théologie, mais je pense que nos auditeurs pourront comprendre parce que.
J'espère.
Voilà, c'est dit dans des termes relativement simples, et puis on pourra y revenir. Alors, ben, je vous remercie, André Gounel, et puis je remercie tous ceux grâce à qui cette émission peut se faire, donc nos techniciens, Yann, William, je remercie toute l'équipe qui est animée par Nathalie, qui fait vivre cette radio, et puis je vous dis merci à vous, nos auditeurs, que nous retrouverons donc dans 15 jours.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.